Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Quatrième volet d'entretien dans cette série des clés pour vivre. J'ai la joie, et on parle de joie quand on reçoit des frères dominicains. Et c'est un frère dominicain que je reçois cette semaine. C'est frère Sylvain de Toc. Bonjour frère.
Bonjour Nathalie.
Alors c'est un régal de vous lire et j'espère
Merci.
Que aussi c'est un régal aussi de vous entendre. Alors beaucoup de repos vous prêchez là et que du repos pour le cœur, pour le corps et au fond pour l'âme. Trouver ce repos en Dieu, c'est possible. Ce sont des petits trésors là dans cet ouvrage et je le conseille. Alors aujourd'hui dans une société, frère Sylvain, qui est marquée par beaucoup de stress, de fatigue, vous nous invitez dans cet ouvrage à redécouvrir ce repos de Dieu, je dirais ce repos en Dieu. C'est un chapitre étonnant, le repos comme un acte, vous le nommez aussi spirituel.
Oui.
Alors c'est un devoir de poser cet acte presque spirituel, de prendre la ferme résolution, décision de s'arrêter et de se reposer.
Ben, vous vous rappelez peut-être ce passage dans l'Évangile, c'est dans Saint Marc, où Jésus voit que les apôtres revenir de mission, ils sont fatigués, ils ont beaucoup prêché, ils ont accompli sans doute beaucoup de miracles. Voilà, venez à l'écart et reposez-vous un peu. Reposez-vous un peu. Dans la vie religieuse, on essaye de vivre cette réalité-là au rythme de la liturgie. Je suis un religieux dominicain, j'habite dans un couvent, dans un cloître, avec une église, avec un rythme un peu particulier qui n'est pas celui de la société civile. Et j'aime rappeler ce que je fais dans cette partie du livre, que ben, dans nos couvents, normalement, la nuit, c'est sacré. Le repos de la nuit, c'est sacré. C'est un temps béni, un temps pour se reposer en Dieu. Et nos auditeurs ne le savent peut-être pas, mais dans les monastères, les couvents, il y a une tradition qu'on appelle le grand silence et qui consiste à essayer de respecter le plus possible le silence de la nuit entre le dernier office de la journée, donc les complis avant d'aller se coucher, et le premier office du lendemain, qui peut être l'office des matines, l'office des lectures donc, ou alors l'office des laudes. Chez nous, au couvent, c'est l'office des laudes. Ben, l'idée, c'est qu'entre la fin des complis et le début des laudes, normalement, on ne parle pas. Là encore, ce n'est pas pour se compresser, se comprimer, se contrarier, étouffer, étrangler la parole. Ce n'est pas du tout ça le but. Le but, c'est de respecter le repos de chacun et de faire en sorte qu'on puisse prier, on puisse lire, on puisse dormir tout simplement.
Et on entend bien l'importance aussi que vous relevez du silence.
Oui, et du silence.
Le silence apaise.
Il faut du silence pour dormir, il faut aussi du noir, de l'obscurité, mais il faut du silence.
Éviter les écrans, là je pense peut-être.
Alors ça, effectivement, c'est ce que nous disent tous les spécialistes, pas d'écran avant d'aller au lit. Alors évidemment, on est tous à la même enseigne, c'est toujours difficile pour nous de décrocher de nos ordinateurs, de nos téléphones portables, de nos télévisions, mais il faut aussi à un moment donné se donner ce repos nécessaire. Dans cette partie du livre, j'essaye d'inviter les lecteurs à savourer ce que nous dans la vie religieuse, nous goûtons presque tous les soirs. Parce que tous les soirs, à l'office des complis, nous avons ces psaumes merveilleux qui nous parlent du repos en Dieu, de la détente en Dieu. Et donc, on peut trouver Dieu jusque sur sa couche, jusque dans son lit, jusque sous la couette, si vous préférez. Il est là, le Seigneur, et il habite notre sommeil.
Alors, on est dans une culture aujourd'hui, je parlais de fatigue et de stress, le monde est stressant, c'est le monde aussi de la performance, pourquoi est-il alors si difficile d'accepter cette démarche aussi de se mettre à l'écart? Vous avez parlé de Jésus avec ses disciples qui après la mission partaient à la montagne ou au désert pour retrouver force et courage pour repartir ensuite dans la mission. Pourquoi est-il si difficile d'accepter de se reposer?
Mais je crois que la nécessité biologique du repos est une excellente chose pour nous rappeler notre condition de créature. Nous ne sommes pas tout puissants. De même que l'alimentation d'ailleurs, mais c'est un autre dossier. Nous ne sommes pas tout puissants. Ceux qui jouent à ça, Ils vont rapidement vers la catastrophe, épuisement, dépression, burn-out. Aujourd'hui, même dans les communautés religieuses, dans l'Église,
oui, les communautés, les religieux ne sont pas épargnés
aussi.
Tout
à fait, à ce genre de phénomène.
Donc, qu'est-ce que ça dit ?
Mais ça dit à quel point nous avons du mal à lever le pied et à laisser Dieu prendre un petit peu les choses en main, parce que nous ne sommes pas le bon Dieu, nous ne sommes pas tout-puissants. Vous vous rappelez cette parabole où Jésus explique que le semeur, quand il a semé les graines dans son champ, après, qu'il dorme ou qu'il se lève ou qu'il travaille, de toute façon, ça ne changera rien. C'est pas à lui qu'il appartient de faire pousser les graines. Je ne suis pas Dieu, je ne suis pas le créateur de la nature, et encore moins celui qui donne la grâce. Ça, il y a que Dieu qui crée, il y a que Dieu qui donne la grâce. Et même pour nous, vous voyez, comme ministre de l'Église, comme prédicateur, prêtre, c'est bon aussi de nous rappeler cela. Nous ne remplaçons pas le bon Dieu. Nous sommes à son service, nous sommes aussi, nous essayons d'être de beaux et bons instruments entre ses mains, on l'est plus ou moins, pas toujours, on fait de son mieux ou pas, ça dépend aussi des périodes de la vie, mais nous ne sommes pas le bon Dieu. Et il est extrêmement important de rappeler cela. Et je crois que le sommeil, c'est l'occasion justement de... Là, il faut que je m'arrête, sinon ça ne va pas pouvoir continuer. Il faut que je dorme, il faut que je me repose. Ce que j'appelle dans le livre aussi un petit peu l'effet reset, comme nos machines, là, vous voyez nos téléphones portables, nos ordinateurs, nos appareils électroménagers, ils tombent en panne. Parce que c'est matériel tout ça, et la matière, au bout d'un moment, elle bug. Eh bien, vous voyez, c'est frappant, mais souvent on nous dit quand ça tombe en panne, finalement le moyen le plus simple, c'est vous débranchez tout, vous attendez un peu, et puis vous rebranchez, vous rallumez, et la machine repart. C'est un peu la même chose avec notre corps. Il faut savoir débrancher de temps en temps, se reposer, pour pouvoir repartir du bon pied précisément.
Alors on parle beaucoup de repos avec vous, et puis il est bon de rappeler que Jésus lui-même se reposait après des temps de mission, et qu'il invitait aussi ses disciples, et ses disciples d'aujourd'hui au fond, à avoir cette sagesse, cette prudence aussi du repos, pour prendre soin du serviteur en vue de la mission. Voilà, alors le repos n'est-il pas parfois perçu un peu comme un état aussi de paresse?
Si, c'est possible aussi. On peut abuser de tout. On peut abuser de la nourriture, on peut abuser du sommeil. Il y a des passages dans la Bible, par exemple dans les écrits de sagesse de l'Ancien Testament, qui nous invitent à ne pas être paresseux, bien sûr. Mais vous voyez, comme disait le vieil Aristote, c'est un enseignement d'Aristote qui a été repris ensuite par les théologiens, en particulier par saint Thomas d'Aquin, la vertu, c'est toujours le juste milieu. Ni trop, ni trop peu. Pas trop de sommeil, évidemment, sinon on devient paresseux. D'ailleurs, on se repose pas si bien que ça si on reste trop longtemps au lit. Mais si on manque de sommeil, c'est une catastrophe. On fait des bêtises, on n'est pas attentif. Ça, tout le montre aujourd'hui. Un sportif qui manque de sommeil, il se blesse. Un conducteur qui manque de sommeil, il a un accident, etc. Il est important d'avoir ça à l'esprit. Après, ça n'empêche pas que dans la vie de l'Église, il y a des figures charismatiques qui ont des grâces, des dons pour vivre de très peu de nourriture, de très peu de sommeil. Mais on en compte combien des gens comme ça ? Ce sont des personnalités tout à fait exceptionnelles, des parcours exceptionnels. Moi, je suis dominicain. On dit dans les premiers textes sur saint Dominique que saint Dominique, il dormait pas ou très peu. Il n'avait pas de lit, il ne dormait pas au dortoir, il passait la nuit à l'église et il priait le plus longtemps possible. Et quand il était accablé par le sommeil, il se détendait un petit peu. Et dès qu'il revenait à lui, qu'il reprenait ses esprits, il continuait sa prière. Ce qui est génial, c'est que le frère qui témoigne de ça, qui était son successeur, le bienheureux Jourdain de Saxe, tout de suite, il dit « Mais attention, on n'est pas appelés, nous, à ça ». On essaye d'imiter les vertus de saint Dominique chez les dominicains, mais on sait très bien qu'il avait des dons exceptionnels qu'on ne peut pas imiter, parce que ça, ce sont presque des charismes d'ordre miraculeux.
Est-ce que c'est un appel aussi particulier sur une personne ?
Je pense, oui, tout à fait. Vous voyez, beaucoup de nos auditeurs imaginent sans doute, parce qu'on parle des grands mystiques, des Padre Pio, des curés d'Ars, ici d'une Bernadette Soubirou, etc., d'un saint Dominique qui ne dormait pas ou qui mangeait très peu. Très bien, une Catherine de Sienne qui avait des périodes... Mais c'est miraculeux, c'est pas le mode ordinaire de la vie chrétienne. Et dans un couvent, on apprend aussi à apprivoiser le mode ordinaire de la vie chrétienne. Si on veut se passer du mode ordinaire de la vie chrétienne, si on pense que la vie chrétienne, ça consiste à faire l'ange, bah vous savez comment ça se termine. Hein, qui fait l'ange fait la bête, comme on commence à dire au XVIIe siècle. Et c'est pas banal parce que c'est à cette période-là, justement, que le jansénisme se déploie et qu'on imagine que la vie chrétienne, ça consiste en une sorte de délavage, à blanchir, si vous voulez, à lessiver son humanité. Et c'est le corps qui trinque.
Donc d'où cette sagesse et demander cette sagesse et ce discernement de faire aussi d'être à l'écoute.
Hein, tout à
au
fait.
Fond, hein, on n'a pas parlé de cette écoute, mais l'écoute, pour obéir, pour
Nathalie,
discerner, il faut écouter.
La règle de saint Benoît, par exemple, elle est toute suspendue à l'écoute. Hein, c'est la première parole. Bah, la règle de saint Benoît, elle a été inventée pourquoi ? De même que les règles monastiques à cette époque-là, parce que dans les communautés monastiques, ça partait dans tous les sens. C'était délirant. Hein, et donc, il a fallu réguler la vie des religieuses, des religieux, sinon c'était l'anarchie, le chaos, on faisait n'importe quoi sous prétexte de sainteté, d'ascèse. Bah, par exemple, saint Benoît, il est quand même l'un des moines qui explique qu'il faut que chaque moine ait un lit. Ah oui, mais à l'époque, c'était pas si évident que ça. C'est du luxe presque. Ah non, il faut qu'un moine se repose. Il faut qu'un moine ait autant d'heures de sommeil que la règle le prévoit, ni trop, ni trop peu.
Alors, on parle beaucoup des moines, de la vie monastique. Alors, nous avons des auditeurs qui n'ont pas épousé et adopté la vie monacale.
Mais le but, c'est de montrer qu'il y a une sagesse dans la vie chrétienne et que cette sagesse, eh bien maintenant, elle est mise au service de tous.
Voilà, et j'ai presque envie de dire bon sommeil, chers auditeurs. Prenez soin
prenez soin de vous. Take care, comme disent nos amis anglais. Prenez soin de vous.
Alors, prenez soin de vous jusqu'à demain, frère Sylvain de Tocque. J'aurai la joie de conclure avec vous cette série intitulée et c'est le titre de votre ouvrage « Au bon plaisir de Dieu, l'évangile du bien-être ». Donc n'ayons pas peur de choisir cet évangile, de l'adopter dans notre vie au quotidien, cette vie ordinaire qui devient extraordinaire. À demain, même lieu, même heure.
Merci Nathalie.